Ma première arrestation en novembre 73. Alors, j'arrive. Et le spectacle est absolument ahurissant. Parce que les deux amis qui étaient avec moi, donc dans la cellule, qui étaient hiérarchiquement plus élevés que moi, ils sont là, tous les deux, complètement ravagés, par terre, ensanglantés. Et ils venaient de sortir justement d'une séance de torture. Et c'est comme ça qu'ils ont donné mon nom, en fait. Alors, torture, c'est des coups de pied, c'est des gifles, c'est des menaces de viol. Alors, ça se passe donc dans les locaux de la police, hein, à l'avenue Bourguiba, ministère de l'Intérieur. Et c'est là que je suis un peu effaré, parce que dans une chambre, un peu, il y a au moins 10 copines que je connais de la fac qui ont déjà été arrêtées. Alors, elles étaient là. Ça fait du bien de retrouver ses copines, même dans un... On nous appelle les filles de la politique. Bnet Siessa, pour nous distinguer un petit peu des droits communs.
On nous appelle les filles de la politique. Bnet Siessa, pour nous distinguer un peu des droits communs. Il y a un proverbe tunisien qui dit « Shanka ». La pendaison en groupe, ce sont des vacances. Et alors, et cette histoire dans les locaux de la police, elle a duré 3 mois. Donc moi, j'étais arrêtée en novembre 73 et j'ai été libérée en janvier 74. Ce qui se passe, c'est que à l'université, il y a des élections. Ils m'ont poussée à me... Forcément, j'ai été élue. Alors le soir même, donc on est en février 74, je dormais tranquillement à la maison, j'entends la voiture qui s'arrête, la même, le même scénario, je regarde par la fenêtre, la voiture et les deux mecs que je connais bien. Et là, dans cette prison de femmes, moi, j'étais dans un silence assourdissant. Et elles, les filles de droit commun, sont libres toute la journée. Et le soir, à 5 heures, elles sont enfermées dans leur chambre. Et le seul moment où j'avais des bruits, c'était le brouhaha des filles qui rentraient justement à 5 heures. Et alors, ce moment, elles passaient me parler à travers la serrure. Est-ce que tu veux quelque chose ? Je leur dis oui, j'ai envie d'un travail manuel. Elle me dit, ben voilà, tu prends la cuillère en aluminium, parce qu'on avait des cuillères en aluminium, tu la casses et tu la frottes contre le mur et tu réussis à obtenir un petit crochet et tu n'as qu'à défaire comme un pull. Et c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai défait un de mes pulls en laine et j'ai tricoté, enfin j'ai fait du crochet. Et j'ai fait un petit coussin.
Et après votre deuxième arrestation, vous avez continué à militer ?
Le mouvement était cassé. Donc il fallait un peu se repositionner quoi, autrement. Donc on s'est replié sur une activité légale. On a constitué des associations pour la démocratie, des associations féministes. Et moi, honnêtement, j'ai commué mon militantisme en enseignement. Et puis en recherche. Depuis 50 ans, je continue à faire de la recherche. Alors dans des thèmes justement sur le communisme, sur le mouvement ouvrier, après sur la question des femmes, etc. Donc moi, j'ai pas l'impression d'avoir un moment donné. Pas du tout.
Tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas, tu continues à vivre.
Ah. On écoute le mezoued du musicien Ali Zitouni sur un rythme zendali sorti des prisons de Tunisie. Puis on passe à la deuxième partie.
C'est un peu la question plus générale de l'archive comme dépositaire en fait de potentiel, de futurs non advenus, de rêves non accomplis. Et c'est en ça que l'archive elle est toujours vivante et qu'elle doit être réactivée. Tu vois, tu parlais des documents sonores comme passé mis en boîte. Justement, il y a toute une réflexion à l'heure actuelle parmi les archivistes, parmi les historiens. Pour essayer de penser l'archive non plus comme un endroit où le passé se dépose, mais un endroit aussi qui est en fait une sorte de réserve à futur pour réactiver les potentiels dont elle porte la trace en fait. Tu vois, il faut qu'il y ait une forme de relance de l'archive, du document, dans d'autres dispositifs qui donnent de nouveaux sens à ce document-là, mais ça peut nourrir d'autres histoires, cette mémoire-là, qui sont à écrire.
C'est une citation de l'historienne Candice Raymond qui va nous parler d'une ancienne militante palestinienne dont elle cherche la trace.
Donc je travaille sur un site particulier qui était donc ce centre de recherche monté par l'OLP qui a joué un rôle très important dans la diffusion d'une connaissance historique de la Palestine. La spécificité, ou en tout cas quelque chose de totalement inédit qu'a inauguré le centre de recherche, c'est la production d'un savoir par les Palestiniens sur Israël. Retourner l'arme du savoir contre l'ennemi. C'était la première fois que ça se faisait dans le monde arabe, en arabe, dans le contexte d'une lutte de libération nationale, en s'appuyant sur un régime de vérité scientifique. Ce centre de recherche est resté tristement célèbre pour avoir fait l'objet d'un pillage en 1982 dans la foulée de l'invasion de Beyrouth. Un pillage donc de ses fonds, de sa bibliothèque, de ses fonds d'archives qu'il avait patiemment constitué depuis 1965 puisqu'il a été créé. C'était la première institution civile créée par l'OLP en fait. Et ensuite il a fait l'objet d'un attentat à la bombe qui a fait près d'une vingtaine de morts. Qui a entraîné sa fermeture définitive, mais surtout la dispersion de ses anciens cadres, la dispersion donc de ses archives. Enfin, voilà, il n'en restait plus beaucoup de traces. Et à travers ces bribes d'informations que je collectais pour essayer de reconstituer le puzzle de l'histoire du centre de recherche de l'OLP, j'ai repéré le nom d'une femme qui avait publié 3 ou 4 livres. Parmi les 300 et quelques ouvrages publiés par le centre. J'ai retrouvé un petit peu plus tard sa trace dans le lancement d'une revue qui s'appelait Khamsin, qui était la première revue d'extrême-gauche impliquant des Israéliens et des Palestiniens, qui a été lancée d'abord à Paris, puis à Londres, qui a produit un certain nombre de numéros. Et puis ensuite, elle a complètement disparu. Plus personne ne savait où elle était, ce qu'elle était devenue. Ça a été très compliqué, mais j'ai retrouvé sa trace à Beyrouth. Et je l'ai eue par téléphone. Et je me suis fait envoyer, balader. Je l'ai appelée, on était à 7 octobre plus 4 mois ou 5 mois. Elle était totalement désespérée. Et elle avait un discours extrêmement dur. On a parlé pendant 10 minutes. Je pense que j'ai été le déversoir d'une grande colère de sa part. Elle m'est vraiment rentrée dedans en me disant « Mais ça n'a aucun sens. Pff, de quoi tu me parles? De quelle révolution tu me parles? De quelle justice tu me parles? De quelle femme tu me parles? De quels intellectuels tu me parles? De quel savoir tu me parles? Mais presque... Mais t'as pas honte ?» Tu vois, elle n'a pas utilisé ces termes-là, mais c'est ce que j'entendais moi. T'as pas honte de venir me parler de ces fariboles alors qu'on est en train de vivre un génocide? J'ai pas trouvé les mots. J'ai pas osé la rappeler plus tard. Et cette dame, elle m'obsède un petit peu. J'ai un peu du mal, j'arrive pas à l'oublier. J'aimerais vraiment un jour la rencontrer quand même avant qu'elle nous quitte.
Pour paraphraser le penseur et diplomate malien Amadou Ampateba à la tribune de l'UNESCO, je dirais qu'en Afrique, un vieillard ou une ancienne qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Plusieurs femmes de cette militante aussi, de cette génération, n'ont pas voulu nous parler après octobre 2023. Parmi elles, Leila Shahid. Et on en profite pour vous faire un petit coucou, madame, et vous dire merci pour tout, merci pour l'exemple, pour votre éloquence, merci pour la dignité. Vos mots n'ont pas été vaines parce que nous sommes là, le combat continue. Merci, madame Shahid, Tahia Palestine. Il y a deux ans, à Tunis, on a eu la chance de rencontrer une autre grande militante, Oumi Issab.
Je traduis et je répète les mots de Oumi Issab, militante du Fatah, mouvement de libération nationale palestinien. Quelle était la question? Ah oui, sur les événements de la première intifada. Oui, moi, Oumi Issab, je ne restais pas au Wafa jusqu'à 2 heures, mais jusqu'à 4 heures du matin. Wafa, c'est l'agence de presse palestinienne. Et les dimanches aussi. L'intifada était une sacrée intifada. C'est un mot pour dire révolte, soulèvement. Comme ils disent, on a enseigné au monde entier les lancers de pierre. C'est pourquoi on la rappelle la révolte de pierre. Je suis Madame Oumi Issab, Khadija Salama Al-Muhattadi, palestinienne du nord de Palestine de Shafa Amro, de la région de Haïfa. Mes parents se sont réfugiés à Dimashq, Damas, en Syrie, où je suis née. Mais j'ai grandi dans l'amour de la Palestine et de la cause de la Palestine, que ce soit à l'école ou à la première école de la vie qui est ma maison. Mon père et ma mère ont planté l'amour de la Palestine en moi, l'amour de mon pays. Ils m'ont appris que nous avions le droit au retour en terre de Palestine. Quand je suis arrivée en Tunisie, je n'ai évidemment rien compris de la langue. J'étais déchirée émotionnellement. Je suis restée malade pendant plus d'un mois. Et donc, comme moi, Oumi Issab, je me suis retrouvée à travailler dans une organisation politique. Il faut savoir qu'au début, j'étais institutrice. Et puis, nous avons eu les enfants, 3 filles et 3 garçons. Là, je suis restée quelques années sans emploi parce que les enfants étaient en bas âge. Mais en 1982, les leaders palestiniens sont arrivés en Tunisie et ont ouvert l'agence des presse Wafa.
1982, note de bas de page. Invasion israélienne du Liban. Évacuation de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, et de ses combattants vers la Tunisie. L'armée israélienne encadre le massacre par des milices chrétiennes, des civils palestiniens restés dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila.
Quand ils sont arrivés à Bizerte, on était des milliers. On était là avec nos keffiyeh. On leur a même rendu visite. Parce que justement, dans ma génération, la question palestinienne était fondamentale. On pouvait faire des manifestations dans la rue tant qu'on ne critiquait pas l'État tunisien.
Je rejoins Wafa en tant que journaliste et pourtant je ne suis pas une. Mais comme les sœurs tunisiennes n'arrivaient pas à lire notre langue, j'ai commencé à travailler pour l'agence dans le département des archives et de l'information. Le matin, quand j'arrive à l'agence, je salue mes camarades. Sabah el khair, kif kom? Je prends le bulletin que le directeur a mis dans l'ordre, les nouvelles de Palestine, les nouvelles du Liban, les nouvelles d'Irak, etc. C'est mon collègue Mohamed qui vient tôt le matin pour retranscrire les nouvelles de la radio. Parfois, il y passe la nuit. Mais son écriture est toute petite, très petite. C'est que dans les écoles de l'UNRWA, et l'UNRWA c'est l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, on nous disait toujours, écrivez petit pour que les cahiers ne se terminent pas vite. Mais là, je disais toujours, ya Mohamed, s'il te plaît, écris plus gros, ya khoui. On les prend et on doit les imprimer. Pour faciliter le travail des consoeurs tunisiennes, je découpe les articles de journaux et je les colle sur une feuille de papier avec la date et la source. Les bulletins sont envoyés à 15 heures à toutes les ambassades du monde entier. Les archives de Wafa sont secrètes. Seuls le directeur et moi y avons accès. Donc j'ai créé des boîtes avec des signes dessus. Même si Abu Ammar, en personne, Abu Ammar c'est Yasser Arafat, en personne voulait voir un article, il devait nous demander. Et quelques temps après, les étudiantes pouvaient venir les étudier. Grâce à Dieu, je suis restée 13 ans. Jusqu'au jour où le commandement palestinien a quitté la Tunisie vers la patrie.
Et elles sont où les archives aujourd'hui?
Aujourd'hui? En 94, tout a été envoyé à Gaza. Une compagnie est arrivée pour collecter ces archives et les camarades me disaient « Omar Issam, chaque fois que nous verrons une écriture, nous parlerons de toi avec amour. » Nous ne savons pas où elles sont. Quand j'ai vu le carton et les archives sur les bateaux, j'ai commencé à pleurer. J'ai vécu comme un deuxième exil. Mes collègues pleuraient aussi parce que j'étais comme une sœur pour eux. Les jeunes m'embrassaient et me promettaient de rester en contact avec moi, de ne jamais me laisser tomber. Mais en réalité, je n'étais pas capable d'aller avec eux à l'aéroport pour les adieux. L'un d'entre eux portait un sac à la main. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dedans et il m'a dit que c'était un sac avec 2 kilos de sucre pour sa mère. Et je lui ai demandé pourquoi 2 kilos seulement. Alors il m'a dit que pendant l'intifada, il était sorti de chez lui pour acheter 2 kilos de sucre. Mais en chemin, il s'est fait arrêter par les Israéliens. Il m'a dit qu'ils m'ont gardé 5 ans, ils m'ont battu très fort et ensuite ils m'ont expulsé vers la Tunisie. Et là, j'ai commencé à travailler pour la sécurité d'Abu Ammar. Et voilà, j'ai veillé. Je lui ai dit, je vais aller chercher encore 2 kilos. Il m'a dit, non. Ma mère m'a donné de l'argent pour 2 kilos seulement. Je dois rentrer avec 2 kilos. Regarde notre situation. Regarde comme il est difficile. Je pleurais, il pleurait. Pauvre cœur.
بلادي راجع بلادي على الأرض الخضراء راجع
traduit de l'espagnol, et Yvonne répète les mots de Natalia, qui parle français. Maya Leira et Natalia, ce sont des prénoms de clandestinité, des blazes. Elles sont toutes deux d'anciennes combattantes des FLN, les Forces de Libération Nationale Mexicaine.
Vous savez, le mouvement qui donnera naissance à l'armée, quelques années après à l'EZL, l'armée zapatiste, les cagoules et les bâtons. Marcos, les sous-commandants, non? Un type avec sa pipe qui sort des sacs à goules.
L'entretien a lieu en Suisse.
Chez moi.
Vous vous souvenez, Natalia? Elle est suisse, elle va à Lisbonne, elle rencontre un photographe argentin, elle part au Mexique et elle rentre en Suisse après plus de 20 ans passés au Mexique. Maya Leira dit: il y a une chose importante, comme dit une chanson d'Amérique latine,
hay un asunto en la tierra,
c'est que personne ne crache du sang pour qu'un autre vive mieux.
Y es que nadie escupa sangre pa que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa que otro viva mejor.
Mais alors vous, en Suisse, vous avez énormément d'or couvert de sang.
Et le chocolat couvert de sang également.
Il serait quand même grand temps que vous reconnaissiez officiellement que vous avez une responsabilité dans la situation coloniale en Amérique latine, non? Je suis à vous.
Soy Maya, vamos a decir.
Alors je suis Maya Leira,
en uno de los idiomas,
ce qui signifie dans une des langues du Chiapas, rayon de lumière.
Entonces, siendo tan pequeña, naciendo
je suis très petite.
Por una parte con de clases trabajadoras.
J'appartiens à une famille de la classe travailleuse,
de
la classe des femmes travailleuses, parce que jusqu'à présent, dans ces quartiers, ce sont les femmes qui travaillent et les hommes qui encaissent l'argent. À 8 ans, ma mère m'a dit: tu vas apprendre à servir ton mari. Alors là, ce poids est tombé sur les épaules. Ok, je vais apprendre à servir mon mari. Et bon, en ce moment, je suis célibataire. Donc, visiblement, je n'ai pas bien appris. À 14 ans, je vais au lycée. Alors, on pensait que ce serait un lycée technique où on préparait des cadres techniques pour le développement du système capitaliste. Et alors arrivent tous ces nouveaux enseignants qui avaient survécu au massacre de 68 et de 71, qui avaient été étudiantes à l'époque de ces soulèvements. Et alors, avec elles, il s'est vraiment passé quelque chose.
1968, soulèvement, massacre. 1968, c'était l'année des Jeux Olympiques.
1968, le mouvement étudiant et révolutionnaire mexicain n'a rien à voir avec ce qui se passe à Paris, à Dakar ou à Tunis. Quoique, il est vrai que les techniques de répression utilisées par les forces de l'ordre s'inspirent de ce que les Français ont fait en Algérie. L'implémentation de ces techniques en Amérique latine, c'est ce qu'on appelle la guerre sale.
La guerra sucia.
Qui consiste à arrêter, torturer et faire disparaître toute personne soupçonnée de soutenir les mouvements d'extrême gauche ou s'inspirant des modèles cubains.
Hasta la victoria siempre.
Chinois ou soutenant les Black Panthers,
power to
le
the
Vietnam
people.
Ou la Palestine.
Tahia Palestine.
Mais alors vous, en Suisse, vous n'avez pas de services sociaux de soins de santé gratuits. Pardon, mais il serait quand même grand temps que vous luttiez, non? On n'est pas parti volontairement du mouvement zapatiste. Il y a eu un moment de...
Crac. Rupture.
Oui. Une rupture durant un congrès.
En 1993, les FLN, les Fronts des Libérations Nationales du Mexique, organisent un congrès important pour voter deux changements majeurs. Le premier, la loi révolutionnaire des femmes.
Les Revolucionarias de Mujeres.
Qui consiste à un ensemble de mesures pour protéger toutes les femmes mexicaines, par exemple le droit à l'éducation, le droit de travailler et d'avoir un salaire juste, le droit de participer à la vie politique, le droit de choisir librement un compagnon et de pouvoir le quitter, l'interdiction et la sanction sévère des violences physiques, des viols et des tentatives de viols. C'est Maya Lera qui a défendu ce projet. Le deuxième changement majeur, c'est la transformation du FLN en un parti politique de masse, mais la branche armée du mouvement, les ZLN, sous la direction du sous-commandant Marcos, a fraudé.
Il y a eu un vote truqué en faveur de l'entrée en guerre. Un point qui n'était pas sur l'ordre du jour, qui n'avait même pas été discuté. Probablement parce qu'ils savaient que nous, on était contre. Nous avons préparé le soulèvement des travailleuses de tout le Mexique, pas seulement les indígenas du Chiapas. Mais on se serait soumis à la décision de la majorité.
Bien sûr, mais ils ont préféré faire voter notre exclusion.
Ils voulaient passer à l'action.
Marcos avait décidé de continuer sans nous.
Il voulait...
Elle rêvait de l'organisation horizontale. On travaillait dans ce qu'ils appelaient le comité de rédaction.
Et dans le comité des formations des FLN.
On travaillait politiquement pour enseigner aux camarades de l'armée zapatiste de libération. Moi, je donnais des cours de sociologie et de matérialisme historique.
Matérialisme historique.
Et moi, des cours d'économie.
Et on soutenait matériellement. On gagnait sa vie en ville et on donnait presque tout son salaire au mouvement. On avait une double vie. En tout cas, moi, j'ai fait ça depuis...
Quand?
On était peu nombreuses, n'est-ce pas?
Non, mais on faisait beaucoup.
C'est comme traverser un miroir. On était dans une vie, on passait le miroir, on était dans l'autre et il ne devait pas y avoir de lien. On devait prendre 1000 précautions pour ne pas être suivi, pas répondre à des appels de personnes qu'on n'était pas sûr qui c'était. Il y avait énormément de codes de clandestinité pour passer le miroir. On nous donnait rendez-vous à des endroits qui nous variaient. Là, on avait les yeux bandés, on ne savait pas où on allait. Même pour les rendez-vous une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines ensuite, pour la rédaction de ce journal, La Verdad.
Comment pouvait-on avoir un seul moment pour soi-même? Le père de mes filles a été zapatiste lui aussi, donc il n'a pas pu être trop présent. On n'a jamais pu vivre ensemble parce qu'il luttait dans une ville et moi dans une autre.
Quand le père de mes filles s'est retiré,
et maintenant, que faire, comme dirait Lénine? Ça a toujours été ou lutter avec qui?
Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera?
aujourd'hui, je ne peux plus aller en montagne chasser le rat des forêts pour manger de la viande une fois par mois. Dans les campements, l'eau est très froide. Tu n'as pas le droit de te déchausser. Tu as une brosse à dents pour nettoyer ton arme. Parce que je savais que je ne venais pas seulement offrir mon cœur. Il y a cette chanson. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Qui a dit que tout est perdu? Moi, je viens offrir mon cœur. Pas seulement offrir mon cœur, pas seulement offrir ma mort, mais offrir ma vie quotidienne, ce qui est beaucoup plus difficile à offrir. Et en plus, lutter contre les hommes qui sont... medio flojos.
Plutôt faibles.
Ou paresseux.
Ou lâches, au sens de desserrés.
Ah, je pense pas qu'elle aurait pu dire que les camarades étaient lâches.
Mou?
Mou?
Après la naissance de ma deuxième fille, leur père est devenu comme paranoïaque.
Pas seulement offrir.
Pas seulement offrir sa vie.
No solo la vida.
Pas seulement offrir son cœur.
No solo el corazón.
Pas seulement le danger de la mort.
No solo el peligro de la muerte.
Mais la vie quotidienne.
Pero la vida cotidiana. Elle dit, mais je ne me plains pas. Grâce à la lutte zapatiste, beaucoup de luttes ont émergé dans le monde. On a fait quelque chose. Algo hicimos.
Algo hicimos. Un granito de arena pusimos.
Notre grain de sable, on l'a mis, et ça.
Podrán decir que nos vencieron.
Ils pourront dire qu'ils ont gagné.
Por ejemplo, por una huelga.
Que j'ai lutté, par exemple, pour une grève. Et qu'ils ont gagné.
Que luché por derechos.
Que j'ai lutté pour les droits des camarades femmes. Et qu'ils ont gagné.
Pero nunca he dejado de
Mais jamais je n'ai cessé de lutter.
Y cuando ha sido un poco larga esta
et quand l'attente a été trop longue, j'étais presque désespérée. Ma vie n'avait plus aucune utilité. Ma vie est pour la lutte, où que je sois dans le monde. C'est comme ça. Pardon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je rentre dans la clandestinité en 1983. C'est ça que je voulais dire. Vous pouvez couper tout le reste. Bravo. La police m'a séquestrée en février 75, si je ne me trompe pas.
90?
Ah oui, 93, oui. Oui, c'est ça. En 93, ils ont voté notre exclusion. En 94, il y a le soulèvement. Et puis voilà, un an après, il y a eu un traître qui a dénoncé beaucoup de monde. Et alors, je me suis retrouvée complètement isolée. Mais je voudrais revenir à cette question du couple. Parce que c'est très difficile d'empêcher les relations de couple. Tu ne pouvais pas être en couple avec quelqu'un de l'extérieur, mais alors ton monde se refermait énormément sur les camarades de l'organisation. Et l'ennemi, on le porte à l'intérieur, tout le monde. C'est lié à notre habitude du machisme. Il faut lutter tous les jours contre cet ennemi.
Après la naissance de notre deuxième fille, leur père est devenu comme paranoïaque. Il était de plus en plus jaloux. Ça me rendait difficile même le travail de l'autre côté du miroir avec les camarades. C'était devenu vraiment une torture.
Les jours où il a pointé sur elle une arme à feu, Natalia s'est réfugiée chez une voisine. Elle a vécu cachée avec ses filles jusqu'à ce que quelqu'un prévienne sa famille qu'il a aidé à s'installer ailleurs. D'autres n'ont pas ce privilège. Natalia ne quitte pas l'organisation pour autant, mais 2 ans plus tard, lors de ce fameux congrès de 1993, elle et Maya Lera seront toutes deux écartées. Les ZLN et son porte-parole, le sous-commandant Marcos, effacent les FLN de son histoire. Citation Adela Cedillo. Ah non, mais parce que Marcos, il sait bien qu'il ne va pas gagner la guerre médiatique en disant « On est une guérilla Castro, Guevarius, Léniniste ». Non, non, non. Il faut effacer ses origines politiques-là et jouer à fond la carte de l'identité en disant « On est une guérilla indigène », alors que lui, il ne l'est pas.
Moi, au contraire, ça a tout de suite été quelque chose que j'ai non seulement compris, mais j'allais dire ressenti. C'est la question de la dignité. Et pourquoi ça m'intéressait? C'est parce que ce n'était pas l'identité. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui relevait de ça, mais qui n'était pas ça. En tout cas, c'est ce que j'entendais dans les discours du sous-commandant, enfin, dans ce qui... Et ce registre de la dignité, c'était quelque chose qui, a priori, qui est encore aujourd'hui dans les gens qui ont une culture politique de gauche, qui provoque un certain rejet.
Nous venons d'entendre l'historienne tunisienne Leila Dahli, que nous allons retrouver plus tard.
Non, mais les Edelaines, à partir de 94,
Attends. Nous t'avons préparé une estrade à profil bas.
Non, mais les Edelaines, à partir de 94... Les Edelaines, à partir de 94, c'est une performance. Nous faisons la guerre à l'État mexicain, mais nous voulons la paix. Nous sommes zapatistes, mais nous ne voulons pas le pouvoir. Nous sommes une organisation horizontale. Mais c'est moi le chef. Mais je ne suis pas un leader, je suis le sup, les sous-commandants. Je respecte les commandants et commandantes que j'ai nommées, moi-même nommées, et qui font tout ce que je dis. Sinon, je le fais virer. Un mouvement de lutte armée qui a renoncé à la lutte armée et qui vendu les machines qui servaient à fabriquer les armes qui avaient assemblé dans la clandestinité pendant plusieurs années par les FLN sans faire couler le sang.
Alors voilà, moi j'avoue que c'est peut-être pas réflexe de classe, mais j'ai un peu de mal avec tous ces universitaires qui défoncent l'élite des libérations qui ont le malheur de durer dans le temps. Les FLN ont disparu, gloire à elles, les ZLN perdurent, on peut tirer dessus à boulet rouge. On dirait que mort, c'est mieux.
Ah. Il faut s'accorder. Il faut s'accorder sur une vision nuancée. Si on prend le cas de Yolanda, son père l'envoie dans l'armée zapatiste quand elle a 16 ans. Elle étudie, se forme militairement, elle est promue au grade de major et s'occupe de la comptabilité. Elle épouse Marcos. Et puis, quand il entame sa folle carrière avec des centaines de femmes, il la répudie. Elle doit quitter l'organisation politique, mais elle refuse, torfote. Mais elle est écartée quand même. Et depuis, elle s'engage autrement, plutôt dans les structures civiles du mouvement. Donc, on peut dire que le zapatisme a changé sa vie. Il y a bel et bien un empowerment des femmes, mais ce n'est pas très romantique.
Ah oui, c'est pas romantique, mais... En tout cas, c'est les femmes zapatistes qui ont transformé ce mouvement.
Oui, la loi révolutionnaire des femmes, c'est nous qui l'avons impulsée. D'ailleurs, on l'a fait voter durant le même congrès qui nous a exclus. Moi, je m'entendais très bien avec Yolanda. Tu l'as connue, toi ?
Oui, après, il est sorti avec une journaliste française, puis une allemande, je crois.
Oui, toutes les nationalités. Bon, c'était toute une époque aussi. Hein. Je me rappelle, à un festival du Parti communiste, il y avait plein de délégations de tous les pays et plein de groupes de musique. Et j'avais deux copines qui me racontaient leur parcours cul. Oui, elles me disaient, ah, moi j'ai déjà couché avec deux Russes, un Vietnamien.
Ah, bah, c'est des journalistes très solidaires.
Oui, les journalistes aussi, oui. Il y en avait plein qui voulaient interviewer Marcos. Et tout le monde voulait coucher avec lui.
Parce qu'il soutenait vraiment le mouvement.
C'était des journalistes internationalistes. Bon, chacune fait ce qu'elle veut. Mon père qui était très... il disait, chacune fait de son cul un cerf-volant et le laisse voler où ça lui chante. Simplement, protège-toi, ma fille.
Interprogressiste.
Mayela Hera dit, en tout cas, moi, j'ai voulu protéger ma fille. Beaucoup d'enfants sont sexuellement abusés, ici comme ailleurs.
Natalia dit, chez moi, à Genève, ma voisine, elle a retrouvé son mari dans le lit de leur fille.
Et ça se passe souvent avec les personnes les plus proches, au sein de la famille. Elle dit, moi, ça m'est arrivé enfant, et je ne voulais pas que... Et j'ai dit, ça ne va pas arriver à ma fille. Et donc, pendant les 23 premières années de la vie de ma fille, je n'ai eu ni copain, ni amour, ni amant homme. Rien. Que des femmes. J'ai refusé. J'ai refusé de mes 33 ans à mes 56 ans. Mais maintenant, je sors et je m'autorise à être tout ce que je veux être. Il y a une chercheuse, c'est Dorothée Ducy, qui a dit « l'inceste, c'est le berceau de toutes les dominations. Beaucoup de femmes entrent dans la lutte pour que ça change.
Ma plus jeune fille, elle a passé par des mouvements de lutte aussi durs, où on s'expose, parce que c'est épuisant quand on est tout le temps dans l'angoisse, une nouvelle dramatique après l'autre. Donc pour essayer de contrebalancer un peu, apporter des éléments d'humour, de drôle, de musique, de créer des espaces où on vit actuellement déjà la vie d'une autre façon. L'idéal, ce serait créer un écolieu qui soit un lieu de refuge de tout ce qu'on refuse maintenant, quand on a un peu les forces affaiblies de lutter contre tout ça, qu'on ne va pas arrêter, mais quand on s'affaiblit, qu'on ait un espace de récupération qui soit un lieu de joie, d'échange, de connaissances, d'art. Et voilà, c'est son rêve. On était sur le point de trouver le lieu, mais ça nous a filé sous le nez. Mais on ne renonce pas et les préparatifs continuent. En musique, en poésie, on continue. On est là.
On est là. On est là. Petite pause d'une minute dans le spectacle si vous voulez vous lever, vous dégourdir ou bouger de place. Et nous, pendant ce temps-là, on va en profiter pour faire des petites annonces. Alors, petite annonce une. Il y a un rassemblement le 30 à Orléans, Campo Santo à 14h30 pour la marche des fiertés. Il y a un bloc combatif, donc voilà, petite annonce pour visibiliser ça.
Une autre petite annonce aussi de la Horde Garderie et de l'association Rue de Bougogne qui organise une grande fête pour les enfants avec ou sans leur famille. C'est après-demain à la place Saint-Aignan et il y aura de la musique, des jeux, des animaux et des géants. Voilà. Et si vous avez des petits messages, des annonces pour demain, n'hésitez pas à venir nous voir après le spectacle. Merci.
Voilà, la pause est très très bientôt finie. On écoutait FBK et on va pouvoir reprendre.
On est toujours là. Et il y a vraiment beaucoup de micros. On va continuer avec l'historienne tunisienne Leïla Dakhli.
Il y a aussi beaucoup de micro-victoires qui peuvent être juste que des gens se mettent à parler. Voilà. Il y a du micro. Il y a plutôt quelque chose qui ressemble un peu à de la broderie, quoi, une petite chose. Les lois sur l'avortement en Argentine et au Mexique, récemment. Bien sûr, les femmes iraniennes, même si elles n'ont pas gagné, moi, je considère qu'il y a une forme de victoire, avoir fait et continuer à faire ce qu'elles font. Les femmes irakiennes, quoi. Souvenez-vous, putain. C'était fou, en 2019, les manifs de femmes en Irak, c'était un truc de dingue. Donc, ça change tout toutes les images qu'on a en tête, quoi, de ce que c'est qu'une révolution tout d'un coup. Ouais, moi, j'ai des souvenirs déjà à Bahreïn, ça m'avait frappé en 2011, les manifs de femmes. Mais pour d'autres raisons, c'est parce que les manifs, elles sont pas mixtes. Donc, il y a un côté avec des femmes et un côté. Donc, tu as des photos où il y a plein de femmes voilées, qui rebalancent les bombes lacrymo, là. Mais finalement, c'est pas mal, la manif non mixte. Ça marche bien. C'est une belle image. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, il y en a plein de victoires. Moi, je trouve qu'il y a de très belles choses qui se passent dans ces contextes-là. C'est clair que c'est pas toujours évident, mais... C'est beaucoup plus vivant, quoi. Je dirais que le féminisme, il va bien mieux dans le monde arabe et au Moyen-Orient. Il va mieux aussi en Amérique latine qu'en Europe, par exemple.
Janvier 2011 à Tunis, au bout de 4 semaines de soulèvement, appelé la révolution de la dignité, Thawrat al-Karama, Ben Ali, le dictateur, s'enfuit. Extrait du podcast Tu étais où le 14 janvier, réalisé par la musicienne et militante LGBTQIA+, tunisienne Bouchra Triki, qui est à retrouver sur le site de médias indépendants Inkifada. Normalement, dans ces circonstances, les gens devraient réagir. Sortir dans la rue, manifester, klaxonner, exprimer leur joie. Mais il n'y avait rien. Rien du tout. C'était le vide total. Rien. À part de quelques chats et des policiers, bien sûr. Soudain, j'entends quelqu'un qui crie dans la rue. Alors que l'avenue Bourguiba était vide. Ni personne, ni voiture. C'était le soir. Vous n'avez pas idée de l'écho que ça produisait. Et là, en l'entendant, je me suis mis à rire avant de voir qui c'était. Quand il s'est rapproché, j'ai reconnu Abdelnasser Laouini. On se connaît depuis la fac. Il était actif au sein de l'UJET, le syndicat des étudiants de gauche. Il était sorti pour exprimer sa joie à sa manière.
Je vais sortir répéter les mots d'Abdelnasser Laouini qui exprime sa joie à sa manière.
Ce qu'on entend a été filmé par celui que Nathalie vient de citer.
Et avec ces mots, Ben Ali Harab, Ben Ali s'enfuit. Le peuple tunisien est libre, Shab Tunisi Hur. Le peuple tunisien ne meurt pas, Shab Tunisi Maimouch. Nous allons écouter le dernier témoignage, celui de Henda Shinawi, journaliste, blogueuse, militante féministe tunisienne, militante d'aujourd'hui. Et c'est Aminata qui va la figurer.
Moi, j'ai grandi dans une famille ordinaire, tunisienne, de classe moyenne. On avait toujours des problèmes économiques, comme toute la classe moyenne tunisienne. Et dans ma famille, il y avait beaucoup de... Et il y a encore beaucoup de violence. De violence verbale, de violence physique, et beaucoup de mépris. Et donc, j'ai vécu aussi des violences sexuelles toute mon enfance et mon adolescence. Et donc... comme une femme victime de violences et surtout de violences sexuelles, j'étais face à un effondrement total en fait. Je faisais beaucoup de tentatives de suicide successives et à un moment où j'avais genre 20 ans je pense ou 21 ans, j'ai décidé en fait de changer et de faire face aux sources de problèmes qui est cette violence-là. Mais ça m'a pris aussi beaucoup d'années pour comprendre que je ne suis pas la responsable en fait, de cette violence. Il n'y avait pas quelqu'un autour de moi qui pouvait confirmer ça.
J'ai traduit un peu ma langue maternelle, un des passages du témoignage de Henda rencontré à Tunis en 2024. Mi tayonki fay goto denke mi halande kureji an ifu golle ko gollami le galle o torra ko torrami le galle o a tiagal mudu nawide metogal wadi tetter e defu kami dagni.
Et ça m'a pris beaucoup d'années pour dire à haute voix et dire aussi à ma famille que non, ce n'est pas de ma faute que je suis une femme. Être femme n'est pas un crime.
et de dévoiler aussi tout ce que j'ai vécu dans la famille, ce qui a causé aussi des problèmes à plusieurs niveaux. Et à ce moment-là, quand j'ai fait cette petite victoire, c'était très douloureux, bien sûr. Mais ça changeait complètement ma vie. C'était une victoire. C'est à ce moment-là où j'ai réalisé que résister à tous les niveaux, au niveau personnel, au niveau aussi politique, au niveau intellectuel, est un acte de libération.
Je vais à présent répéter les mots de Handa en français. Ça a renforcé en fait cette idée de ne pas rester seule, d'aller vers d'autres personnes et d'encourager les femmes à parler et surtout d'aider les femmes à réaliser qu'elles ne sont pas fautives, elles n'ont rien fait. Cette conscience en fait est importante pour libérer la parole et se libérer aussi de ce sentiment de la honte. En fait, la révolution est venue et c'était à tous les niveaux et très rapidement et tout en même temps.
Et c'était comment la révolution?
De l'intérieur, c'était très violent, émotionnellement, mentalement et parfois physiquement. C'était très très dur, dans des milieux même progressistes. Bon, dans leur discours, ils sont progressistes, mais dans la pratique, il y a encore du pain sur la planche, comme on dit. Mais je vais essayer quand même d'expliquer, parce qu'au départ, la révolution a ramené une attitude générale chez tous les Tunisiens, et surtout chez les militants et l'élite politique, d'être dans l'urgence. Et de vouloir faire tout en même temps. Et donc, personne n'avait la patience de réfléchir ou de négocier équitablement hein, sur les priorités. Donc, on était au même moment avec votre volonté de faire tout très vite et en même temps. On était face, en fait, à la contre-révolution. Qui disait Ben Ali est parti et il n'y avait que Ben Ali qui était responsable de tous les malheurs de la Tunisie. Mais nous on est bien et on va faire mieux et bien sans Ben Ali. Donc il voulait tout à tout prix revenir. Donc dans ça, on manquait d'expérience tout simplement pour exiger qu'on soit présente en tant que féministe. C'était difficile. Il fallait laisser cette identité-là de côté. Pour être intégré dans ce mouvement politique, même quand on est nous-mêmes les initiatrices de ce mouvement.
On va vous faire une pantomime pour illustrer. Alors, c'est super les pantomimes à la radio. Hein. Moi, je figure toujours Henda, sa parole et sa position en féminisme plus jeune, intersectionnel et radical, contrairement à mes copines qui sont d'une autre génération dite de la deuxième vague.
Donc, moi, je figure ces féministes de la deuxième vague. Vous savez, celle des années 70, comme Leïla, qu'on a rencontrée avant dans la première partie. Elle, c'est ma copine. Et maintenant, on va croiser leurs deux témoignages, celui de Henda et celui de Leïla. Ça va pour vous? Nous, avec Leïla, ça fait 40 ans qu'on attend ces moments. Pour nous, le féminisme, c'est maintenant.
Et moi, je suis de la même génération que Henda. Je figure un révolutionnaire alpha. Féministe dans les discours, mais il y a du pain sur la planche. En vrai, c'est pas ma priorité. Il faut faire front.
Et moi, je suis le féminisme d'État et je dis vive la femme tunisienne.
Et là. Elle serre la main à la contre-révolution. Là, je vais faire mon regard pas content.
Là, je parlais de mon expérience personnelle. Le mouvement féministe en Tunisie n'est pas homogène. Il est dominé par un courant féministe de la deuxième vague. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelques-unes des anciennes qui ont fondé l'Association des femmes démocrates, par exemple, et qui ont commencé à travailler dans les années 70.
Je dis à nouveau les mots de Leïla, militante et historienne tunisienne. Par contre, mes filles ne sont pas politisées. D'ailleurs, chaque fois que je fais un truc, « Maman, t'es pas dans les années 70 », on me ressort ce slogan.
C'est des femmes qui ont ramené le féminisme en Tunisie, un féminisme qui se démarque en fait d'un féminisme d'État qui était porté par Bourguiba depuis l'indépendance. Ces militantes féministes sont en majorité des avocates et qui ont un regard très différent de féministes que moi je porte. Et d'autres de ma génération et des générations aussi plus jeunes, féminisme aussi noir, queer, qui a un féminisme plus radical. Et on n'était pas d'accord sur des concessions où des féministes ont donné une légitimité politique à l'ancien régime. Voilà.
Là. Non. Pour la question de la Palestine, elles sont en plein dedans, les deux. Et l'avocate, et ma fille qui vit à Nice, la deuxième, elle me dit que je souffre le martyr, parce qu'à Nice, c'est l'horreur. Hein. Le drapeau d'Israël flotte sur la mairie de Nice. Ah oui. Ma fille, d'ailleurs, et mon gendre aussi me disent on va bientôt quitter Nice, parce que c'est une ambiance exécrable. Donc, non. Sur la question palestinienne, sur la question des droits de l'homme, ça, toute la famille est d'accord. Non. C'est un marqueur de cette question palestinienne, elle a coupé le monde en deux. Elle coupe le monde en deux en ce moment.
Du fait qu'elles ont voté la loi de réconciliation en 2017, et cette loi discréditait la justice transitionnelle. Et en contrepartie, ils avaient en fait réussi à faire voter dans le Parlement la loi intégrale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'était comme un deal. C'est une loi qui est très très progressiste et qui pourrait en fait lutter contre les violences. Mais nous, à l'époque, et on continue de le dire, ça sert à rien de voter une loi dans un pays où il n'y a pas de justice. Pourquoi faire des concessions conséquentes hein, pour voter une loi qui, à l'avance, on sait qu'elle ne va pas être appliquée? Comme j'ai dit, on est à ces femmes-là que je respecte énormément, qui sont en majorité, c'est des amies à moi, et en majorité des femmes privilégiées jusqu'à aujourd'hui, elles disent il y a des institutions. Parce qu'elles sont prisonnières de leurs privilèges. Elles ne savent pas que la majorité de la Tunisie, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas d'institutions, il n'y a même pas des écoles. Donc pour elles, changer les réalités des femmes,